peux donner un petit peu plus de sang? Un tout petit peu. Allez, donne un petit peu. Allez, fais monter un petit peu encore. Juste un petit moment.
La vie c'est pas simple comme ABC. Dans les routes de la ville, y'a plein de SDF. Ils peuvent pas l'ISF. Plus de RMIs que de PDG. Même avec un big CV. Si t'as pas l'air VCBG, tu peux bosser quoi qu'un FC, pas au VHV ou au PTT. Et vu que manger tout cher comme un appel en PCV.
Le jeune homme que vous entendez là, son nom d'état civil, c'est Rodolphe Richeval. Mais son nom de rappeur, c'est Nègre Lyrical. Et ça a été l'un de mes enseignants. Je ne l'ai pas eu au collège, ni au lycée, ni à la fac, mais il m'a enseigné à travers ses albums, à travers ses concerts et à travers ses projets de ce qu'on appelle des mixtapes. Comment est-ce qu'il m'a enseigné? Il m'a appris des choses sur mon pays. Il m'a appris des choses sur moi-même en tant que jeune homme noir qui essayait de se construire en Guadeloupe et en Martinique. Nègre Lyrical, pour moi, a été une espèce d'étoile dans le ciel que je regardais alors que j'essayais de me comprendre, j'essayais de me trouver. Je suis devenu enseignant-chercheur, un éducateur, mais j'ai été pétri dans le moule des cultures urbaines. J'ai été pétri dans ce monde-là, j'ai été fabriqué par cela. Et je dois vous avouer que très souvent, en plus de mon travail à l'université, je vais dans des établissements scolaires et je vais à la rencontre d'un jeune public qui, lui, est complètement fasciné par ce monde-là, qui est pétri aussi par ce monde. Et de temps en temps, j'y vais comme je suis aujourd'hui. Lorsque j'arrive, souvent il y a des encadrants qui ne me disent pas bonjour. Ils me regardent bizarrement. En quel moment a dit papa, ça ravine. Parce que ma dégaine est bizarre, quoi. Mais je viens à la rencontre des jeunes en étant habillé comme je m'habille comme ça quand je sors. Des fois, quand je vais à la fac, bon, allez, je ne mets pas la casquette à l'envers, je peux la mettre à l'endroit. Mais je le fais exprès pour faire tomber certains préjugés, tomber certains stéréotypes, non seulement chez les grandes personnes, mais aussi chez les plus jeunes. Chez les plus jeunes, ce que j'essaie de leur dire, regardez, vous pouvez être quelqu'un d'accompli, de quelqu'un d'éduqué, respectueux et de passionné, sans forcément changer ce que vous êtes et ce que vous aimez. Et au plus grand, ce que j'essaie de leur dire, c'est de regarder la différence autrement. Les gens peuvent ne pas s'habiller comme nous, ne pas parler comme nous, ne pas être dans le même univers que nous, mais donnons-leur une petite chance. Et ne les regardons pas mal dès le début. Au contraire, essayons de bâtir des ponts entre nous. Une fois que j'ai fait cela, je dois vous dire que les cultures urbaines, certains d'entre vous ne savent pas forcément ce que c'est. On pourrait définir ça de manière très simple. Dans les années 60, les années 70, même dès les années 50, nos pays, les îles de la Caraïbe, sont devenus de plus en plus urbanisés. Aux États-Unis, oh, là, ça avait commencé déjà bien plus tôt. Mais les cultures urbaines, ce sont les modes d'expression, les manières de vivre, les manières de s'habiller, les manières de produire qui sont issues de ce changement-là, qui sont issues des personnes qui ont vécu dans les milieux urbains. Ces personnes dans les milieux urbains, à un moment donné, elles ont mis en place de nouvelles technologies. Elles ont mis en place de nouvelles manières de bouger, de nouvelles manières de faire de la musique, de nouvelles manières de faire du sport aussi. Je peux vous donner quelques exemples. Bon, le rap, on le connaît mieux, c'est le sommet de l'iceberg. Le dancehall, pour nous, qui sort de Kingston, de la Jamaïque, on le connaît bien, ça va avec des manières de danser. Ça va aussi avec une mode vestimentaire. Ça va aussi avec un langage, une manière de parler, de s'adresser aux gens. Ça va aussi avec l'art visuel. L'art visuel, c'est-à-dire des manières de faire des documentaires, des manières de produire des films, le contenu aussi. Et bien sûr, je ne présente plus le graphe dont Pac-Man est un ambassadeur vraiment formidable. Le graphe, il est présent un petit peu partout. Là aussi, tout ça, on peut mettre ça dans les cultures urbaines. On peut mettre aussi la manière de faire du vélo, le BMX, certains d'entre vous ont connu ça, des manières de faire du vélo. On peut mettre dedans certains sports de glisse. On peut même mettre dedans des manières de faire du sport, comme par exemple le streetball, le basket, ou certains sports en salle. Aujourd'hui, l'une des récentes manifestations, c'est de voir des jeunes aller dans des équipements de la ville et faire des acrobaties sur des équipements de la ville. Tout ça, on peut mettre ça dans le même sac, les cultures urbaines. J'ai appelé mon talk à l'aide. Les cultures urbaines sont dans ma classe. Pourquoi je l'ai appelé comme ça? C'est parce que très souvent, mes collègues éducateurs au collège, au lycée et maintenant dans les écoles primaires Mes collègues éducateurs voient les cultures urbaines arriver non pas comme de gentilles petites choses discrètes dans leur salle de cours, mais les cultures urbaines arrivent dans leur cours sans aucun respect pour l'ordre établi. Elles arrivent soit avec une musique qui est forte, et il faut dire à chaque fois aux élèves, et aux écouteurs, elles arrivent des fois avec un jean qui tombe là, comme ça, et rentrent en cours comme ça. Elles arrivent peut-être des fois avec une manière de s'habiller. Elles arrivent aussi des fois avec un vocabulaire, une manière de regarder les filles, ou une manière pour les filles de parler des garçons. Les cultures urbaines arrivent dans la salle de cours sans respect pour l'ordre établi. Et très souvent, mes collègues éducateurs disent « Mais c'est quoi ce truc ? » Ça n'a pas sa place là. J'ai un problème avec ça. Et beaucoup de collègues éducateurs, beaucoup de collègues infirmières ou autres me disent « On a un souci là, on doit gérer des problèmes de violence. Il faut que tu viennes parce qu'on a besoin d'avoir ton expertise. » L'idée que j'aimerais partager avec vous, elle est simple. Au lieu que ça soit un problème, j'aurais aimé qu'on puisse en faire un tremplin, un moyen de passer du savoir, de passer des contenus pédagogiques. C'est possible. Pourquoi est-ce que je dis ça? Il nous faut commencer à penser un peu comme ça, parce qu'aujourd'hui, les cultures urbaines, elles ont déployé leur filet partout dans le monde. Il y a une jeunesse, il y a des gens de 15 à 50 ans qui sont influencés par ces modes d'expression, ces façons de s'habiller, ces façons de penser l'autre, un peu partout. Si vous et moi, on part là maintenant, on prend l'avion et qu'on va à Sainte-Lucie, on va à Castries, on va trouver les cultures urbaines ancrées présentes. Si on va un petit peu plus loin, allez, disons qu'on va faire un tour au Pérou, on va en Amérique du Sud, on les trouvera bien installés. On va en Colombie, on les trouvera bien installés. Au Chili, aussi. Je ne parle même pas du Canada et des États-Unis. Ils sont hors concours, puisque ça sortit là. Allez, on va en Europe. On va en Suède, on les trouvera là. On va à Londres, même chose. La France, du nord au sud, même chose. On descend en Espagne, elles sont présentes sous plusieurs formes. Il y a des pratiquants, il y a des admirateurs, il y a des gens qui ne les aiment pas du tout ou qui ne les côtoient pas, mais qui, quelque part, sont un peu influencés par elles. Donc, elles ont une espèce de puissance qu'on ne peut plus ignorer. Les forces économiques, les industries culturelles ont déjà compris leur puissance. Lorsqu'elles cherchent à vendre des événements, lorsqu'elles cherchent à vendre des marques de vêtements, lorsqu'elles cherchent à vendre des boissons alcoolisées ou non, elles font appel aux cultures urbaines parce qu'elles savent qu'elles sont très puissantes et qu'elles peuvent toucher une catégorie de personnes qui peuvent leur apporter de l'argent. Elles ont compris leur puissance, les forces économiques. Par exemple, allez, on va à Trinidad et j'ai rencontré à Trinidad un marchand de meubles qui, pour pouvoir faire venir des clients, a utilisé du rap pour pouvoir faire venir des clients dans son magasin. On peut aller à un autre endroit. Tiens, allons à Détroit. À Détroit, j'ai rencontré là, cette fois-ci, une grosse industrie automobile qui a utilisé la réputation et le talent d'un rappeur qui s'appelle Eminem pour pouvoir vendre des marques de voitures. Et ils ne l'ont pas fait à n'importe quel moment. Ils l'ont fait à un moment donné où l'industrie automobile, après la crise de 2008, était complètement plombée. Ils ont fait appel à la force de ces expressions-là pour pouvoir attirer des clients parce qu'ils savent, ils ont reconnu leur puissance. Il y a une autre chose qui me fait voir leur puissance, c'est que les expressions des cultures urbaines, elles change la manière dont certaines personnes voient le monde, la manière dont elles considèrent la sexualité, par exemple. La manière dont elles vont considérer ce qui est important dans la vie ou ce qui n'est pas important du tout. Il y a des gens qui vous diront, à cause de ce monde-là, ils vous diront, ça, oh, mais j'ai fait ça, vos gens. Ah ouais, tu vois, purée, ça c'est mon rêve, mon gars. Ah, tu m'imagines si on y ça des mains, si on y ça des mains, ouais, c'est... Tout ça, à partir de ces filets-là. Il y a des hommes qui regardent les femmes à partir des lunettes que les cultures urbaines leur donnent. Il y a des femmes qui considèrent aussi ce que c'est qu'un homme viril à partir de ces expressions-là. Et ça peut toucher à plein de choses. Ça peut toucher aussi au rôle de l'éducation. Ça peut toucher aussi à l'estime de soi. Qu'est-ce qui me donne de la valeur? Qu'est-ce qui fait que je suis quelqu'un d'important? Les cultures urbaines, elles ont une réponse pour beaucoup de jeunes personnes, peu importe leur communauté ethnique, peu importe leur religion, peu importe leur préférence sexuelle, peu importe où ils habitent dans le monde. Ici, regardez, c'est un graffeur qui s'appelle Xan. Il est martiniquais. C'est magnifique. Il a su inscrire son art dans un mur de la ville. Vous avez reconnu Spike Lee. À partir de ce que nous sommes, vous voyez, c'est un je ne sais pas ce que c'est comme arabe exactement, mais il a inscrit ça dans son patrimoine caribéen. Et il nous a mis en relation directe avec la communauté afro-américaine, mais aussi avec tous ceux qui aiment le graphe. Cette photo-là, elle a déjà été regardée des millions de fois partout. Elle est partie d'un graffeur martiniquais. Ici, le photographe, c'est moi. Avec un portable. Mais j'étais à cette manifestation-là. Le danseur ici-là, le b-boy, le breaker, je le connais. Il vit en Martinique. C'est un très bon danseur. Il y avait un rassemblement où là, j'étais avec mes filles, plein d'autres personnes autour. Ça se passe à Fort-de-France, c'est une place célèbre qui est connue de tous les hip-hoppers. C'est près de l'EDF à Fort-de-France. Ici, regardez. Très souvent, les cultures urbaines, on les voit comme des mondes machistes, sexistes. C'est-à-dire où la femme est réduite à ses capacités sexuelles. Où elle est réduite simplement à son sexe, où elle est dénigrée parce que c'est une femme. C'est une réalité que j'essaie de combattre aussi et qu'il nous faut combattre. Mais ce sont des mondes qui laissent la place à plein de gens différents. Tu peux être musulman, chrétien, athée, juif, tu peux sortir de Jérusalem, tu peux sortir du Brésil, peu importe d'où tu viens. Comme il disait tout à l'heure Pac-Man, ghetto ou château, tu as ta place à partir du moment où tu as du talent. Ici, vous voyez cette graffeuse-là. J'oublie son pays, mais vous voyez ses traits asiatiques. Ici, on a une big girl. Il y a des femmes qui pratiquent la danse et qui pratiquent d'autres expressions issues des cultures urbaines et qui le font très bien. Certaines fois, à certaines manifestations, on s'en fiche de savoir si tu es un homme ou une femme. Tout ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce que tu as dans le ventre. Avec quoi tu es venu? Montre-nous ce que tu sais faire. Peu importe. Ici, c'est une graffeuse sénégalaise. Parce que les cultures urbaines, je vous ai dit, sont installées aussi dans presque tout le continent africain. Et l'Afrique du Nord, Maroc, Algérie, Tunisie aussi. Revenons à notre affaire. Les cultures urbaines et l'éducation. Je vous entends, hein, jusqu'à maintenant. Bon, peut-être que je vous ai convaincu, jusqu'à maintenant. Peut-être que oui, hein? Oui. Mais il y en a qui se demandent, ouais, ton histoire là, ouais, ça roule bien. Hein? Ouais, c'est pas mauvais. Hein? Mais finalement, qui j'en crois fait? Comment est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu fais pour utiliser ça, pour enseigner à des gens? Je peux vous donner peut-être quelques pistes que j'ai déjà mis en action et que d'autres collègues éducateurs ou éducatrices ont mis en action. Ça peut être des matières très différentes. Ça va de la géographie en passant par la littérature, on peut aller jusqu'en éducation civique et pourquoi pas aussi l'éducation physique, l'EPS. Commençons par l'EPS, je ne suis pas un spécialiste, hein, mais l'un de mes collègues que j'ai rencontré sur le terrain m'a dit que pour pouvoir motiver ses élèves à bouger et à rentrer dans les activités sportives, il a décidé d'utiliser la musique qu'ils aimaient. La musique que ses élèves écoutaient à longueur de journée. Et croyez-le ou pas, ça fonctionne. Je connais une de mes collègues qui travaille sur deux lycées en Martinique. Elle a travaillé dans le célèbre lycée Shelcher qui a accueilli Aimé Césaire. Et elle m'a dit qu'elle, elle enseigne la littérature, les lettres modernes. Elle m'a dit qu'elle est passée, elle, par les textes de rap pour pouvoir enseigner le romantisme à ses élèves. Je me rends compte en le disant. Mais elle a réussi. C'est-à-dire que elle est spécialiste du romantisme et elle est aussi spécialiste de ce qu'elle doit enseigner à ses élèves. Elle sait vers quoi elle doit leur faire avoir. Mais entre le curriculum et comment arriver, c'est là que la liberté et les cultures urbaines arrivent. Et elle a utilisé des textes de rappeurs qui faisaient appel à des notions, qui parlaient d'amour, qui faisaient appel à des notions qui lui permettaient de ramener ses élèves vers le romantisme et vers l'évolution du romantisme. Croyez-le ou pas, expérience vécue, elle y est arrivée. Je peux vous donner encore un autre exemple. Pourquoi pas passer par les expressions des cultures urbaines pour enseigner les langues étrangères. Ça a été prouvé. On a quelqu'un qui est ici en Guadeloupe. Il y a de cela environ 2-3 ans, il a montré par A plus B comment est-ce que la musique pouvait aider les gens à apprendre une langue étrangère. Je suis sûr que cette idée-là, elle est déjà parmi vous. Passer par certains textes de musique et certaines ambiances pour pouvoir enseigner l'espagnol, l'anglais. Et pourquoi pas, peut-être pas l'enseigner de la même manière, mais aussi passer certaines choses dans notre langue à nous, en créole. Pourquoi pas? Sachant qu'il y a des artistes aujourd'hui créolophones qui sont comme des apôtres pour nos plus jeunes. Que ce soit les jeunes qui sont scolarisés, les jeunes qui sont en liberté, normaux, et les jeunes aussi qui sont déscolarisés et les jeunes qui sont incarcérés. Est-ce qu'on va laisser la puissance de ces musiques et de ces expressions aux forces économiques, à des choses qui peuvent être difficiles pour le vivre ensemble, ou est-ce qu'on va tenter de voir comment est-ce qu'on peut, nous, éducateurs, trouver notre place et pourquoi pas, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, utiliser la puissance qu'elle développe. Une autre chose que je vous dirais aujourd'hui, c'est que si on ne pense pas autrement l'éducation, on ne pourra pas relever les défis qui sont devant nous. Si vous regardez bien, on a touché le fond. Les titres des médias aujourd'hui nous montrent qu'on a touché le fond. Donc pourquoi pas faire autrement, penser autrement, pourquoi pas essayer. Maintenant, ça c'est un défi pour nous aussi éducateurs et éducatrices. C'est parce que c'est un défi, parce que lorsqu'on se décide pourquoi pas explorer ce chemin-là, on va se retrouver à ne plus être les experts. Souvent quand on rentre dans nos salles de cours, nous sommes les experts. On a fait les études pour, on a le curriculum pour, et on est les experts de la connaissance qu'il y a à transmettre. Mais là, si on décide de passer par ce chemin-là, ça veut dire que nos élèves, nos apprenants, ils auront une petite longueur d'avance sur nous. Et ça nous fait devenir peut-être un peu vulnérables. Mais l'éducateur progressiste, c'est quelqu'un qui ne refuse pas d'être vulnérable. C'est quelqu'un qui s'éduque lui-même avant d'éduquer les autres. C'est important pour nous de faire cela. Maintenant, si on n'arrive pas à faire cela, j'ai l'impression que les choses ne vont pas forcément changer. Ce n'est pas le seul remède, mais c'est l'un des remèdes qu'on peut utiliser. Le Dr King que Pacman a cité tout à l'heure est aussi un modèle pour moi. C'est une référence. C'est une référence parce que c'est un homme qui est pétri par la foi chrétienne, mais qui n'a pas utilisé la foi chrétienne pour se réfugier dans une espèce de nirvana. Non, il a utilisé pour pouvoir changer, transformer le monde. Un pays où des jeunes aiment s'éduquer, aiment l'éducation, veulent continuer à aller plus loin, c'est un pays qui sera plus fort. Merci.